Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter tranquillement de l'actualité locale et on va finir cette semaine avec une discussion long format puisque Léo s'est entretenu avec Basile et Gérard, respectivement des mouvements citoyens Youth for Climate et Attaque 49. Au programme, retour sur les actions emblématiques contre Amazon menées le 30 janvier dernier et discussion autour de l'arrivée des travaux réalisés par la Convention citoyenne pour le climat et les pratiques d'évasion fiscale de manière générale. Vous l'aurez compris, le programme est chargé. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre. Très bonne émission à toutes et à tous.
Les grandes entreprises sont depuis de nombreuses années la cible des associations de citoyens opposées à ces modèles économiques géants. Leurs combats sont multiples. Défense des employés, lutte contre l'évasion fiscale, dénonciation de l'impact de ces grands groupes sur l'environnement et j'en passe. Le samedi 30 janvier dernier, des mobilisations contre le géant du commerce en ligne Amazon se sont déroulées partout en France. À Angers, des actions ont été menées par les associations Attaque 49, Youth for Climate Angers, le groupe local de Greenpeace et Extinction Rebellion. On va discuter de tout ça avec Mathis, notre stagiaire du moment, Gérard de l'association Attaque et Basile qui est là pour représenter Youth for Climate. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Bonjour, merci à toi.
Merci à vous de nous avoir invités.
On va revenir tout d'abord sur vos deux assos, je vais essayer de faire court. Attaque ou Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne a été fondée en 1998. Elle lutte contre les marchés financiers et mène régulièrement des actions citoyennes pour sensibiliser les populations à ces combats. C'est une asso nationale faite de comités locaux mais aussi à dimension internationale. Youth for Climate est peut-être plus récente et a émergé ces dernières années dans le cadre des manifestations de jeunes pour le climat. Les jeunes qui y adhèrent se mobilisent pour la justice climatique et sociale, la protection de la biodiversité et de l'environnement.
Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux à rejoindre ces associations ?
Moi, j'ai rejoint Attaque maintenant, ça fait 3 ans. J'ai toujours été sensible à toutes ces inégalités qui sont de plus en plus criantes au niveau mondial et mais plus précisément au niveau local. Et donc, tout naturellement, j'ai rejoint cette association. Par ailleurs, j'étais auparavant dans un syndicat, la Confédération Paysanne, où comme j'étais agriculteur, donc tout naturellement, mon passé syndical m'a amené à cette réflexion sur les enjeux financiers internationaux et par-delà même, en décliné avec tous les aspects environnementaux que l'on connaît aujourd'hui.
Et ben moi, je suis rentré à Youth for Climate, ça fait un an. En soi, ça fait assez récent, mais pour le mouvement, c'est assez vieux déjà, en soi. Et je suis rentré là-dedans parce que j'ai envie de croire à un futur, j'ai envie de militer, j'ai envie de me sentir utile un peu. J'ai 16 ans, je pense que... Je suis optimiste, quoi. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de bouger, de militer. Et j'ai la chance d'habiter en campagne, d'avoir toujours été en lien avec la nature, l'environnement, avoir un contact direct et rapide avec la nature. Donc je vais essayer de préserver tout ça, croire en un futur et continuer à me battre. Ça marche très bien, c'est cool, on est dans la bonne humeur et on essaye de rester ensemble, quoi.
Vous occupez des fonctions particulières dans l'administration ou vous êtes militant sans responsabilité au sein des associations ?
Pour ce qui me concerne, à Attaque 49, donc le comité local, moi je suis le trésorier, autrement je suis un simple militant de base.
Nous on a la particularité à Youth for Climate de ne pas avoir de hiérarchie ou quoi que ce soit. Donc on a un mouvement où on n'a pas de porte-parole par exemple, tu vois. Et donc en fait on est tous à peu près au même niveau et donc je suis un militant comme plein d'autres.
Tu nous as dit que tu avais 16 ans, Toi, Gérard, tu es un petit peu plus âgé. Qui sont les membres d'Attaque et de Youth for Climate? Côté Youth, c'est évidemment plus les jeunes, mais ça va quoi? 16, 25 ans?
Bon, Attaque, c'est une association qui a 20 ans, un peu plus de 20 ans aujourd'hui, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, créée en 1998. Je dirais qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge doit tourner autour de 50 et 60 ans, je pense. Hein. Même si on retrouve de plus en plus des jeunes générations, et c'est très intéressant parce que ça apporte de nouvelles réflexions et par ailleurs, Attaque, il y a un comité scientifique qui est composé d'universitaires, de gens divers et variés, qui amènent une réflexion aussi en termes économiques, sociaux, etc. Et c'est beaucoup de jeunes générations, des gens de 40, voire moins, qui apportent leur expertise.
Nous, dans notre mouvement, tu l'as bien dit, en gros, entre 16 et 25 ans, 25 ans, ça fait déjà un peu vieux, mais en gros, notre moyenne d'âge, je pense qu'elle est de 18, 19 ans.
Est-ce que la crise sanitaire a affecté la vie de vos assos? J'ai vu que du côté d'Attaque, on avait des mobilisations dans le cadre de l'opposition à la loi de sécurité globale. Peut-être que Youth aussi vous y étiez. On a eu aussi des soirées débats, des projections de films. Votre activité a baissé, elle s'est réinventée. Alors que du côté de Youth, vous êtes plutôt dans la mobilisation.
On essaye de lutter comme on peut. On essaye d'être là pour sensibiliser plus, je pense. C'est plus simple en fait d'avoir des outils de sensibilisation et moins de mobilisation. On a eu des grosses campagnes, on a beaucoup soutenu Raphaël Glucksmann au niveau des Ouïghours. On a fait des actions de sensibilisation, on a mis des petites étiquettes pour bien informer le consommateur de l'impact sur la planète et évidemment sur la cause des Ouïghours. Et donc on essaye un peu comme ça. Forcément, il y a Covid-19 qui nous bloque, quoi, mais on se mobilise devant les magasins, sensibilisés. On fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. En ce moment, justement, on essaie d'informer sur Amazon. On aime bien être en inter-organisation, favoriser une sorte de convergence des luttes, être avec soutenir d'autres, se faire soutenir, rencontrer d'autres personnes, d'autres associations. Je pense que notre activité n'a pas trop baissé, quoi. On se débrouille.
Vous diversifiez.
Ouais.
Alors moi je dirais qu'au niveau d'Attaque, effectivement l'année passée et même encore aujourd'hui, ça a quand même un peu impacté nos activités, parce que nous on propose une association d'éducation populaire, donc on a toutes des formations, on propose des formations économiques, sociales à nos adhérents et au-delà. Et par exemple, Attaque 49, depuis quelques années, là, on proposait les mercredis d'Attaque, par exemple, une fois par mois, où c'était un format qui mélangeait une projection d'un film, d'un documentaire, et après avec un débat à la suite du film, quoi. Donc ça pouvait être sur des thèmes aussi variés que les emplois, l'emploi et le réchauffement climatique, les accords de libre-échange, la fiscalité, la dette, etc. Donc tous ces sujets-là. Alors effectivement, aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative, on attend des jours meilleurs. Ça ne nous empêche pas quand même de participer à toutes les actions. Bon, Amazon, ça a été une action très intéressante et on était particulièrement content d'accueillir avec nous les Youth for Climate et ainsi que Greenpeace et toutes les autres organisations. C'est intéressant de travailler collectivement et ça, on y tient beaucoup. La diversité fait la richesse des actions, mais on espère que demain sera un autre jour et ce sera mieux.
Et pour compléter ma réponse aussi, du coup, on a quand même réussi à faire des actions assez emblématiques comme construire une piste cyclable sur 1,5 km. Donc là, c'est pareil, toujours avec d'autres associations. Là, il n'y avait pas Attaque, mais il y avait des mouvements comme Justice Climatique Angers ou Greenpeace. J'espère ne pas m'en oublier. Et ou encore, à la journée contre la réintoxication du monde, où on a bloqué une usine Lafarge aussi avec plein d'autres associations. Donc c'est aussi, dans cette période-là, on a quand même réussi à faire des grosses actions qui sont assez emblématiques et qui ont du sens, je pense.
On va revenir à présent sur l'action que vous avez menée avec Greenpeace, Extinction Rebellion, le 30 janvier. Sur Facebook, vous avez posté des photos montrant un locker d'Amazon, des points de retrait colis détenus par Amazon. On en trouve par exemple au niveau des supermarchés. Entouré de rubalises de chantier, d'autocollants et de pancartes. Vous avez aussi recouvert un panneau d'affichage libre, d'autres messages d'alerte. moins d'emplois pour des robots. L'État préfère l'expansion d'Amazon à la préservation de mon emploi. Sur Amazon, 98% des vendeurs font de la TVA. Un emploi chez Amazon, 4,5 l'emploi détruit. Il s'agit surtout de messages d'avertissement économique. Pourquoi les associations Youth for Climate, Greenpeace et Extinction Rebellion se sont associées à ces actions?
Moi, je pense qu'on est complètement dans notre rôle sur cette action Amazon, donc qui Amazon qui est quand même le symbole d'un monde qu'on considère insoutenable en termes écologiques. Faire transporter des produits qui font le tour de la Terre pour arriver chez nous, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les gaz à effet de serre produits, on arrive à une situation qui est complètement ahurissante. Et en termes d'écologique, écologique aussi, il y a toute la partie artificielle des sols qui sont créés par les entrepôts. Il y a un projet sur Montbert, dans Loire-Atlantique, un hangar qui va faire 18 hectares, 18 000 mètres carrés. Alors, il faut aussi vous regarder le côté face de la pièce, c'est-à-dire tous les petits commerces qui sont détruits dans nos communes rurales et dans nos villes. C'est de la concurrence déloyale, voilà. Ensuite, le dernier point, un autre point fiscal, c'est toute la fraude fiscale massive par la délocalisation de profits au Luxembourg notamment.
Et on y reviendra plus tard, justement.
On y reviendra plus tard. C'est pour toutes ces raisons que ATTAC était présent cette action, qui était d'ailleurs une action nationale.
Et on va y revenir aussi. Basile, tu veux peut-être compléter un petit peu?
Mais du coup, là, vraiment, c'est une question de complémentarité. Enfin, nous, en soi, on est un peu moins technique sur les chiffres. Ils nous apportent ce savoir, en fait. Et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui militent à Greenpeace et à ATTAC, qui sont vachement calés juridiquement, économiquement, et ça nous apporte, nous, du savoir. Et en plus, nous, on leur apporte un peu notre fraîcheur, notre envie, notre amour, tu vois, pour un demain, pour un espoir. Et du coup, c'est ça, quoi. On se complémente bien, je pense, tu vois.
Je crois qu'on peut plus dissocier la question économique de la question de justice sociale. Tout ça est très lié, en fait, et l'environnement aussi.
Ça rassemble à la fois les combats et les générations, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que ça a donné à l'échelle nationale, du coup, Gérard? Un petit bilan, peut-être, où est-ce qu'il y a eu des actions?
Il y a eu quelques actions emblématiques, donc qui étaient l'entrepôt de Montbert, là, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi une action emblématique aussi dans le Gard à Fournes, où il y a un projet similaire à celui de Montbert.
Vous avez parlé d'actions emblématiques, mais est-ce que vous avez des stratégies de lutte peut-être un peu plus coup de poing, plus marquante, plus tape à l'œil, moins emblématique justement, du côté d'ATTAC comme du côté de Youth contre Amazon, ou même dans vos luttes en général? Tu nous as parlé tout à l'heure d'une occupation de Lafarge.
Ouais, on a bloqué, et nous on croit aussi beaucoup à la désobéissance civile. On croit à ce mode d'action. Une désobéissance civile, ça rime pas forcément avec violence ou quelque chose de très négatif. Nous, par exemple, on a pu aussi faire une autre action emblématique que j'ai pas parlé tout à l'heure, où on a bloqué le McDonald's d'Angers, du centre, dans le boulevard Foch. Et ça, c'est le genre d'action qui en soi, on va pas y ressortir de grandes photos ou de grandes images, mais c'est tellement, je vais pas dire simple, mais c'est pour montrer qu'en fait, on peut boycotter très facilement, on peut fermer quelque chose très facilement. Et oui, c'est ça, quoi. On n'est pas obligé d'être dans la photo ou quoi que ce soit, mais juste dans le dire, nous, on n'est pas d'accord, et on va désobéir, mais pacifiquement, pour montrer que c'est pas normal, c'est quelque chose qui pollue, qui en plus produit de la malbouffe, enfin, bref.
C'est un ensemble.
C'est un ensemble, quoi.
Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à lutter contre les abus des grandes entreprises. On est sur Amazon, là, mais t'as aussi mentionné McDo, et on pourra en faire encore des dizaines. Il a de plus en plus de mobilisation, mais on a un peu de mal à voir changer les habitudes des Françaises et des Français, en tout cas pour rester dans le cadre national. Fin 2020, des appels au boycott avaient été lancés contre Amazon, et une partie du personnel politique l'avait encouragé. Pourtant, dans un article publié par France Info le 7 décembre, le directeur d'Amazon France affirmait que les ventes des entreprises qui utilisaient Amazon avaient augmenté de 60% à l'occasion du Black Friday. C'est que de la com, à votre avis, ou il y a un vrai problème avec la place qu'a pris le commerce en ligne en France?
Moi, je pense qu'on ne peut pas nier l'augmentation du commerce en ligne, le e-commerce. Donc c'est des sociétés aujourd'hui qui, enfin, Amazon en tête, avec Cdiscount aussi qui arrive en deuxième position, qui sont des sociétés effectivement qui sont omniprésentes et qui sont véritablement les profiteurs de la crise, hein. C'est clair aujourd'hui. C'est tellement facile de faire venir à la maison un colis en 3 jours, même voire moins. Pendant le confinement, effectivement, ils en ont profité largement.
Je pense qu'en fait, c'est devenu tellement simple. On est dans une période où je pense qu'on en a tous marre, on est tous fatigués, et on comprend plus grand-chose. Et on a besoin un peu de sortir du tunnel, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas trop, mais je pense maintenant que c'est tellement plus simple pour les gens en général de plus penser à quelles sont les répercussions de nos actions, mais de juste faire la facilité au lieu de se faire chier, même si en soi c'est pas vraiment se faire chier, mais d'aller dans une librairie, je vais dire click and collect, il y a encore des librairies qui ont ouvert, mais maintenant c'est tellement plus simple dans une période qui est vraiment difficile, quoi. Et maintenant c'est devenu, ouais, c'est plus simple, donc ça m'étonne pas, quoi. C'est triste, mais ça m'étonne pas.
Ouais, pour reprendre, ne serait-ce qu'avoir le plaisir d'aller dans une librairie, de voir un petit peu ce choix qu'il y a, de chiner les bouquins, c'est vraiment.
De sentir l'odeur, tu vois, des pages, tu vois. Enfin, après, c'est pas la vie de tout le monde.
Il y a sans doute la facilité, effectivement, de se faire livrer à domicile, mais il y a aussi quand même. Je voudrais revenir sur l'histoire de cette fraude à la TVA, qui est quand même importante, quoi. Une fraude à la TVA, c'est 20% de moins, donc ça veut dire le même produit dans le commerce traditionnel, il est 20% plus cher. Donc, dans une situation où les budgets sont plutôt restreints, soit sont contraints, les gens vont moins cher. Et à partir du moment où on laisse faire toute cette fraude à la TVA qui représente quand même des montants importants, l'estimation c'est de quelques milliards. Si on prend l'ensemble des commerçants en e-commerce, Amazon et Cdiscount, c'est 4 milliards de fraude à la TVA. J'ai quelques chiffres qui peuvent être intéressants. 24 000 vendeurs donc qui passent par Amazon, seulement 538 marques ont un numéro de TVA. T'es dit là, à partir de là, c'est du commerce déloyal, c'est la concurrence déloyale.
On va passer à la dernière partie de l'émission. On va discuter des actions plus générales d'attaque et de Youth for Climate. Je me tourne vers toi dans un premier temps, Basile. Ouais. Le projet de loi Climat Résilience est examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui s'appuie sur les propositions faites par les citoyennes et citoyens tirés au sort pour former la Convention citoyenne pour le climat. Avant d'aborder les questions de fond, d'abord, qu'as-tu pensé de cette initiative prise par les pouvoirs publics ?
Moi, je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Je vais pas faire les louanges de ce que fait le gouvernement, loin de là. Je suis en contradiction sur pas mal de choses et nous, en général, le mouvement, on dit beaucoup non à ça. Mais c'est quelque chose qui va quand même dans le bon sens. On donne la parole à des citoyens. On donne la possibilité à des citoyens de proposer des lois. Là, c'est quelque chose qui peut ressembler à une démocratie, quoi. Enfin, vraiment, les citoyens directement proposent quelque chose. Ouais, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. En plus, c'est plus ou moins dans la continuité de ce que demandaient les gilets jaunes, de ce qui me semblait. Enfin, ils demandaient une sorte de démocratie directe. Faut trouver du positif, parce qu'après, je pense que c'est un peu du négatif.
On va venir sur le fond. Voilà, on peut dire sans trop se mouiller qu'il reste plus grand chose de ces propositions. Il y a beaucoup de journaux, et notamment Le Monde, qui ont commencé à faire un récapitulatif alors que le texte commence à être examiné. On a eu d'abord donc les 3 fameux jokers donnés par le président de la République au moment où le texte a été rendu. Et aujourd'hui, on a 25 propositions qui sont non reprises, 75 qui le sont partiellement, 19 propositions qui sont reprises seulement dans leur intégralité. C'est quoi ton point de vue face à ce constat? Un manque de courage politique ou peut-être les lobbies qui ont torpillé le texte, comme le montre l'Observatoire des inégalités dans un récent rapport qu'il a publié?
Il y a plein de rapports qui ont montré directement que les lobbies, depuis que la CCC a été créée, ils ne travaillent que sur ça, en fait. Hein. Ça fait 9 mois que les lobbies, ils sont en train de comme tu dis, torpiller, c'est le bon mot. Enfin, ils sont en train de détricoter là, toutes ces propositions. Et pas normal. Puis en plus, on a eu comme une belle promesse de monsieur Macron qui était de prendre ses mesures sans filtre. Donc, comme tu as dit, donc en gros, c'est quoi? C'est 20% des mesures appliquées totalement?
Ouais, 19%.
19%. Ouais. Bah là, on voit très bien, donc oui, c'est aussi du manque de courage politique. Même si ces 20% vont passer, c'était Hulot qui passait à France Inter, je sais plus quand, qui disait clairement, mais de toute façon, on donne des échéances. Bon, en 2030, on va arrêter ceci à 50%. On annonce ça 10 ans avant et en fait on se rend compte à l'échéance qu'on a augmenté de 25%. Dès qu'on parle de climat, d'environnement, dès qu'il faut arrêter de faire du profit et qu'il faut un peu raisonner écologiquement, il y a plus grand chose en fait. Ça va dans le bon sens, mais est-ce que au final ça va être respecté? Est-ce que ça va servir? J'espère.
Ouais, ce serait dommage parce que tu l'as toi-même souligné, c'était une belle initiative et un bel exercice de démocratie directe. Ouais. La lutte contre le réchauffement climatique, ça se passe en France, mais ça concerne tout le monde. Mmh. L'Europe a annoncé son Green Deal l'année dernière, mais l'Europe représente une très faible part des émissions de CO2. La Chine représente 27% des émissions mondiales de CO2, les États-Unis 14%, l'Inde 7%. Comment on fait avec ces pays? C'est un petit peu une cause perdue, tu penses?
C'est pas tellement une cause perdue parce que j'ai envie de te dire, les 22% de la Chine, on en est autant responsable qu'eux. Dans le sens où, en fait, là par exemple, si on revient, si on compare à Amazon, ils vont te dire qu'en 2025, ils rouleront tous à l'électrique, mais l'électrique, ça pollue pas sur le coup quand on roule, mais pour extraire les métaux rares qu'on en a besoin, ça pollue. Et en fait, c'est juste, on fait des grosses commandes de voitures électriques qui seront, les métaux rares, ils seront extraits en Chine, ils seront extraits en Amérique du Sud, on polluera toujours plus. Le problème, il est là, c'est que en fait, ces pays-là, ils ont des normes environnementales qui sont beaucoup plus faibles et les multinationales, ils vont s'installer dans ces pays-là et c'est nous qui allons les faire polluer entre guillemets. Pour les États-Unis, bon, c'est l'idéal du libéralisme et du productivisme et on produit toujours plus, toujours trop pour rien, pour des causes perdues. Je sais pas. Écoute, faudrait peut-être juste ouvrir les yeux un peu chaque achat qui va, les répercussions, elles sont pas que là où tu achètes, quoi. Faut revoir un peu tout le processus de la fabrication, de la production. Penser au premier producteur, qu'est-ce qu'il a eu, à ces gens-là, leurs conditions de travail. Faut avoir une vision un petit peu plus globale. C'est compliqué.
On pourrait dire très simplement qu'on a délocalisé la pollution.
Ouais. C'est bien dit.
Gérard, je reviens vers toi maintenant. Merci Basile pour tes réponses. On va parler de taxation des entreprises. Le quotidien Le Monde publie en ce moment une enquête en plusieurs volets dont la conclusion est la suivante et sans appel. Je cite, le Luxembourg est un acteur clé de l'évasion fiscale dans l'Union. Et les entreprises sont largement concernées par cette évasion. Rien de nouveau finalement Gérard, parce que ça fait depuis le début qu'attaque alerte sur ces pratiques.
C'est un peu désespérant, effectivement. Ces défiscalisations, cette évasion fiscale, ça fait longtemps que attaque sort un chiffre. Moi, j'avais en tête entre 60 et 80 milliards d'évasion fiscale chaque année. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus près de 100 milliards d'euros par an. Là, ce que sort Le Monde à travers OpenLux, donc c'est rapidement en résumé, c'est 37 familles donc qui représentent 535 sociétés. À elle seule, donc les 37 familles, ont logé 92 milliards d'actifs au Luxembourg. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce sont ces milliards d'actifs qui sont nets d'impôts, qui ne viennent pas abonder le budget de l'État français qui en a beaucoup besoin pour aujourd'hui. On nous parle en permanence de déficit public, etc. Et on ferme des lits d'hôpitaux, on manque beaucoup de moyens pour l'école, l'université. Et j'ai bien aimé, ça m'a pas fait trop rigoler, mais Madame Lagarde qui récemment a répondu à des économistes qui souhaitaient une annulation de la dette mondiale, enfin européenne. Madame Lagarde qui a dit c'est pas possible, il n'est pas question d'annuler la dette, les traités européens ne le permettent pas. J'aimerais quand même redire que les longtemps, l'Europe nous a serinés, nous a bassinés pour que les États ne dépassent pas 3% de leur budget, de déficit de leur budget par rapport au PIB. Donc ça, c'était arbitraire, il ne fallait pas dépasser 3%, sinon c'était plus possible. Et là, aujourd'hui, Monsieur Macron a tout simplement dit, faut, quoi qu'il en coûte, faut dépenser. Tout ça pour dire que l'économie, c'est pas une science exacte, que la dette, c'est une construction mentale et il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Attaque par rapport à ce sujet-là, on est toujours sur le front. Cette l'évasion fiscale, ça nous motive toujours autant. On voit bien que malheureusement, les faits nous donnent raison. On espère, j'aimerais bien, et Attaque aussi, je pense qu'il y a une mobilisation citoyenne par rapport à ça pour que effectivement on revienne à des fonctionnements, à des méthodes plus citoyennes.
C'est vrai qu'en ce moment, on est quand même dans une période où on n'a jamais eu autant de milliardaires en France. On a plus de 90. Pendant ce temps, les pauvres, ils continuent à s'appauvrir. Et en même temps, leur seul recours à l'extrême précarité, c'est des lieux comme des lieux un peu alternatifs, comme le squat de la Grande Ourse à Angers, comme des ZAD, comme le ZAD de la Dune. Et en fait, dans cette période-là, pendant que les riches s'enrichissent, pendant que les pauvres s'appauvrissent, le gouvernement, ils vont s'amuser à évacuer des endroits qui sont un recours à l'extrême précarité de certains. On enlève des solutions en évacuant des alternatives.
Merci Gérard et Basile d'avoir répondu à nos questions et pour discuter de ces thématiques qui sont à la fois très présentes dans nos vies quotidiennes et dans l'actualité du moment. Si les combats d'Attaque ou de Youth for Climate vous intéressent, vous pouvez les trouver sur leur site internet respectif et sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez toutes les informations relatives à leur lutte, comment personnellement vous y impliquer. Pour approfondir cet entretien, vous pouvez aller sur le site d'Attaque pour retrouver l'intégralité des 30 bonnes raisons de stopper Amazon. Du côté de Youth for Climate, vous pouvez trouver des infos concernant le devenir de la Convention citoyenne pour le climat, actuellement examinée à l'Assemblée. Encore merci Gérard et Basile.
Merci.
Merci à vous.
De retour dans la Covidienne sur le 103 FM. Il va être quant à nous l'heure de clôturer cette émission et cette semaine de Covidienne. Merci à Léo pour son interview encore une fois. Merci à vous, auditeurices, de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain pour de nouvelles Covidiennes. Ce soir, c'est votre soirée dédiée aux musiques électroniques. Technis vous parle de des artistes et de la chaîne Berlin House Music, tandis que DJ Quanks vous emmène découvrir le label Deep Into The Jungle dans le coin somatique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne soirée, bon week-end, portez-vous bien, très belle soirée.